Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête. J'ai fini au mental. Ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases? Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir? Est-il possible de le définir? Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra-performance mentale. Lorsque l'on évoque le nom de Ludovic Pommeret, deux termes reviennent, remontada et longévité. Pour préparer cet épisode, j'ai évidemment fouillé les recoins du net et déniché cette phrase sur un blog. Ouvrez les guillemets. Depuis, Ludovic ne cesse de performer. En 20 212, il remporte la TDS sous l'ovation du public. Fermez les guillemets. Alors, simple faute de frappe ou prophétie, le mystère reste entier. Néanmoins, je note que comme beaucoup d'athlètes, Ludovic déclare « Non, mais moi je fais pas de prépa mentale ». Pour finalement déballer tous les outils et réflexes mentaux qui font passer à travers les orages et autres intempéries de l'ultra. Que ce soit inné grâce à sa personnalité et son caractère, ou acquis grâce à son expérience colossale, Ludovic semble appliquer malgré lui les fondamentaux d'un mental discipliné et bien organisé. Et sans plus attendre, Ludovic Pommeret.
Ludovic, tu as certainement reconnu l'épisode que tu as fait avec Éric Lacroix juste avant l'UTMB. Et depuis, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir ou de au moins conscientiser ton fonctionnement? Ou est-ce que tu agis de façon aussi instinctive et naturelle?
Maintenant, je suis quand même vraiment posé. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à mon mental. Non, pas du tout. J'ai pas du tout changé. Non, j'ai toujours pas de préparation à part celle que j'ai mentionnée pendant avec l'épisode d'Eric où j'ai eu une discussion avec un de mes collègues qui fait du coaching mental, un collègue contrôleur aérien. Et voilà, donc c'est la seule prépa que j'ai eue. Et puis après, c'est aussi un petit peu de discuter, avoir quelques échanges en fait avec Eric et d'autres personnes pendant des stages aussi. On a eu des échanges sur le sujet parce que. C'est quand même un sujet qui est important, je pense, dans l'ultra, ouais.
J'avais noté cette question pour un petit peu plus tard, mais tu me l'as dit tout à l'heure et tu l'avais mentionné avec Eric, tu as fait appel, comme tu viens de le dire, à un de tes collègues, en plus contrôleur aérien, donc ça serait aussi rigolo de parler de ça avec un contrôleur aérien. Est-ce que tu as fait appel à lui par hasard, de manière délibérée? Et pourquoi? Parce que tu étais dans une impasse à ce moment-là de ta carrière?
C'était en 2018 où je pense qu'il y a un petit peu après le contre-coup de l'euphorie de l'UTMB 2016. Ça s'était encore pas trop mal passé en 2017, mais je commençais à plus aller au bout des courses. J'ai eu quelques échecs sur la TDS, sur différentes courses, sur la DI. C'était un peu suite à ça, se dire est-ce que je continue en fait déjà à courir dans le trail. Et si oui, pourquoi je continue déjà? Et qu'est-ce qui me motive à continuer? Donc c'était un petit peu chercher ça. Et pourquoi je n'étais pas allé au bout de ces épreuves-là, quoi. Donc c'est un peu suite à ça, quoi. Et c'est vrai qu'on se dit...
Tu t'es posé la question?
Oui, de continuer en fait. Et puis en 2021, quand j'ai gagné la Diag avec Daniel, il y a Ludo qui m'a dit « Ah non, il ne fallait pas gagner parce qu'après, si tu as tout gagné, tu ne vas plus courir. » Donc là, j'ai changé. Je veux toujours courir. Il y a encore des courses où j'ai envie de courir. Donc je ne me pose plus cette question-là, quoi.
Donc j'en déduis que tu as failli arrêter le trail. Tu te serais reconverti dans quel sport? Qu'est-ce qui t'a frôlé l'esprit?
Non, pas vraiment de sport en particulier. Après, j'ai d'autres occupations. Il n'y a pas que, j'ai pas que le trail. J'ai pas mal de choses qui sont en suspens aussi, liées à mon boulot, au trail et à la famille. Donc, ouais, y a pas mal de trucs, notamment en construction, qui sont en attente d'avoir un peu de temps.
Comment un gars comme toi, expérimenté, etc., qui sait se préparer, en vient à abandonner plusieurs fois consécutivement sur des épreuves? Qu'est-ce qui t'a amené à ces abandons? Maintenant que tu y as réfléchi et que tu le sais.
Qu'est-ce qui bah ouais, je pense que c'est de la motivation, et justement pas avoir trouvé en fait pourquoi je continuais à le faire, pourquoi je continuais à courir, et puis ça m'a permis aussi de voir, peut-être quand j'ai levé un petit peu le enfin fait un petit peu moins de courses, de me rendre compte en fait ce qui me manquait, surtout quand je le faisais pas, donc ce qui me manque sur les courses en fait, bon, il y a déjà l'ambiance sur les courses, mais il y a aussi ces petites adrénalines, ces petits moments de bah justement, en fait, de doute, de pression qu'on a au départ d'une course. Et puis surtout, bah, quand on franchit la ligne d'arrivée, ces petits moments, je pense que d'émotions qui sont assez intenses et qui peuvent l'être plus ou moins en fonction du déroulé de la course. Et c'est vrai que ça manquerait, en fait, enfin, ça me manquera le jour où j'arrêterai, quoi, les courses. Est-ce qu'on
Mais
peut retrouver
pendant la course, qu'est-ce qui
peur,
fait? Parce
dans
que
d'autres
tu
sports?
sois.
Vas-y, on a un petit décalage.
Ça, c'est au départ de la course. Tu es là, ça... Ouais, bah oui, comme tu es avec ton VPN en téléphone à la maison, ça capte pas super top. Ça, c'est bien pour le départ de la course. Tu as envie de voir l'excitation, tu as envie d'avoir l'excitation de te retrouver sur la ligne avec les autres et tout, et de vivre la joie de l'arrivée. Mais pendant la course, quand tu as un vrai coup de mou et que ça va pas, quand éventuellement tu commences à penser à l'abandon, qu'est-ce qui t'a fait flancher justement à ce moment-là?
Bah, c'est peut-être déjà de pas avoir préparé. Alors, ce que j'avais dit avec Eric, c'est que maintenant je préparais, enfin je m'attendais quand même sur les courses à avoir ces petits moments plus difficiles. Alors des hauts des bas, il y en a toujours sur les courses, mais sur certaines courses, voilà, c'est plus ou moins violent, on va dire. Et donc je me prépare un petit peu à l'avance, et puis voilà, déjà en fait en me remettant en tête en fait mes motivations, alors sur une course ou sur une autre, parce que en fonction de la course c'est pas forcément les mêmes motivations, et puis après ça peut venir aussi pendant la course en fait, trouver des motivations et de sortir, hein. Enfin, c'est ce que je parlais un petit peu avec Eric aussi, c'est ces spirales en fait qu'on a, pensées négatives, c'est d'être prêt à pouvoir justement trouver un levier pour en sortir au moment de la course. Et ça, je pense que j'étais pas prêt encore, ou ouais, où je m'étais pas assez posé la question sur justement qu'est-ce qui pourrait éviter de me faire un abandon. Et voilà, maintenant je pense l'avoir un petit peu plus. Je dis pas que je vais jamais abandonner, mais tant que physiquement en fait, il n'y a pas de problème, ou on n'a pas de risque pour la santé. Ouais, ça, je pense qu'avec l'expérience, c'est de plus en plus, ça sera de moins en moins fréquent en fait d'abandonner une course juste pour le mental, quoi, en fait. Ou à cause du
Alors
mental.
j'ai fouillé un petit peu et j'ai retrouvé cette citation avec l'âge, ce que l'on gagne, c'est de l'expérience et peut-être le fait d'arriver à surmonter les coups durs. Il y a souvent des hauts et des bas sur les courses. Les hauts sont faciles à gérer et les bas sont plus compliqués. Ça, c'est relatif à l'âge et éventuellement à la perte de capacité. Ça se traduit aussi sur ta capacité à mieux gérer et à mieux voir arriver les moments difficiles.
Ouais, alors après, les hauts sont faciles à gérer. Là, je reprendrai un petit peu mon coach Philippe, qui me dit qu'il faut les gérer aussi, ces hauts, parce que justement
Bien sûr.
les hauts et puis ces moments d'euphorie, ça précède souvent un moment bas et un temps faible. Donc gérer aussi ces moments-là. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile, mais ouais, souvent c'est avant un moment faible. Donc quelle était ta question? Je sais plus, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question en fait?
Maintenant, comment est-ce que tu gères justement ces hauts? Qu'est-ce que tu fais pour gérer les hauts et ces moments d'euphorie? Et est-ce que ça t'aide, comme tu viens de le dire, à voir arriver les moments un petit peu plus compliqués? Et comment tu gères les moments plus compliqués?
Ouais, ben, comme je le disais, les moments plus compliqués sont préparés un petit peu. Quand c'est des moments plus compliqués mentalement, en fait. Hein, voilà. Alors souvent, ça peut être lié aussi bah, à un moment en fait où on est moins bien physiquement. Ben, ça, on sait qu'il y a un petit peu c'est un peu cyclique en fait. Maintenant, enfin voilà, mes stratégies de course sont aussi quand même assez conservatrices. Donc voilà, j'ai pas. On va dire que pour certains, bah, je manque de panache et je prends pas beaucoup de risques en fait en début de course où je suis plutôt à essayer d'avoir un rythme constant qu'à être explosif en début de course et perdre trop à la fin. Donc, je dirais que j'ai moins aussi ces moments-là de haut et bas en fait et la course est un peu plus lissée. Si je prends l'exemple de mon dernier UTMB, c'est une des courses où j'ai été le plus lisse, même si bah, au début de course ça a été difficile mentalement de se retrouver aussi loin alors que j'étais sur le rythme prévu quoi. Donc, ça c'est une course. Tout le monde m'a dit, t'as fait une super course parce que t'es remonté tout le long. Mais voilà, moi je pensais pas être aussi loin en fait, dans les 40-50 en fait, en début de course quoi. C'était pas l'objectif avec les allures que je m'étais fixé. Mais voilà, c'est la course qui valait ça, enfin qui était comme ça. Et ouais, ça a été assez compliqué à encaisser aussi, quoi. Donc toutes les courses sont différentes. Hein.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça a été difficile à encaisser. Tu pensais être sur ces allures-là, tu pensais être plus dans les 30-40 ou 20-30, disons, ou qu'est-ce qui s'est
Ouais,
passé finalement?
20-30 en fait, et c'est vrai de se voir aussi loin, ben on se dit ben on n'est pas au niveau en fait, on est à la ramasse, et voilà, c'est difficile après de se dire ouais, continue c'est bien, puisque t'es pas dans. Enfin, t'es dans des objectifs de temps, donc d'un côté t'es bien, et de l'autre côté en fait, il y a quand même des objectifs aussi de place, même si on se dit toujours de toute façon je vais faire ma course, mais c'est un peu facile à dire, on se place quand même aussi par rapport aux autres, et quand en début de course on est assez loin, bah c'est plus dur à gérer quoi. Et puis on se dit bah je suis pas bien. Enfin c'est là qu'on commence à. Et j'ai souvent dit à mon assistance, ouais j'ai pas de jus. Et au final j'étais quand même dans mes timings. Donc c'est pas que j'avais pas de jus, c'est que tout le monde allait plus vite. Et bon au final j'ai pu tenir ce rythme assez longtemps, ce qui m'a permis de remonter au classement.
Ça veut dire que malgré les années d'expérience, tu as encore du mal à être parfaitement étanche, finalement à ce qui se passe autour de toi, aux coureurs qui vont plus vite et peut-être se mettre dans le rouge, un petit peu trop tôt dans la course, alors que toi, tu es sur ton allure.
Oui, bah étanche, je pense que je n'y serai jamais. Enfin, si on arrive à faire seulement sa course, je suis pas sûr que quelqu'un en fait arrive à faire vraiment sa course sans tenir compte des autres et de ce qu'il y a autour de soi et rester en fait dans sa bulle. Et après, c'est pas forcément non plus le but. Moi, j'aime bien aussi quand même sur la course. Alors cette année, j'ai pas partagé beaucoup de temps avec des coureurs, mais des petits passages avec des coureurs. Donc c'est des moments qui sont sympas. Il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais partagé un peu plus de temps avec des copains pendant la nuit, donc ça c'était cool. Cette année, j'étais un peu plus seul en fait. Donc voilà, je veux pas non plus être complètement dans une bulle, parler, enfin être complètement fermé, même si on passe pas notre temps à discuter quand même sur une course comme l'UTMB ou la Diag. Ah, il y a le chat qui vient me rendre visite.
C'est bien ça. C'est normal, c'est la vie quotidienne qui s'exprime. C'est mignon un chat en plus. Une veille de course, t'es plutôt irritable ou plutôt détaché?
Ouais, non.
Oui, et question subsidiaire, est-ce que ça a changé au fil des années?
Je dirais que je suis un petit peu plus détaché, mais ça reste quand même du stress, donc un petit peu quand même d'irritation, ouais. Enfin, d'irritabilité en tout cas. Enfin, ça, faudrait plus demander à ma femme, parce que c'est vrai que bah,
T'inquiète
des
pas,
fois.
on va en parler tout à l'heure, t'inquiète pas.
Voilà, bah ouais, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, enfin, la veille d'une course, ou la veille d'une grande échéance. Et puis, ouais, on n'est pas forcément très aimable et ouais, plus irritable, ça c'est clair. Donc, ouais, moi, ça reste quand même toujours une pression. Ceux qui me disent enfin, je respecte ceux qui me disent qu'ils arrivent vraiment tendus sur une ligne, sur un ultra. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Enfin, d'être détendu, c'est vraiment arriver à se détacher et puis se dire que j'ai aucune aucune pression par rapport au résultat. Et moi, je me mets quand même un petit peu de pression, une attente, en fait, voilà, de faire du mieux que je peux et d'avoir quand même encore une certaine performance sur la course. Donc, arriver complètement détendu, faudrait vraiment que tu t'en foutes de faire dixième ou millième. Mais c'est le cas pour personne parce que tu vois, ceux qui partent pour faire quand même quelque chose, un résultat, alors chacun fait le résultat à son niveau, hein, mais et qui sont vraiment trop loin de leur objectif, c'est rare qu'ils, en fait, on termine une course, quoi. Enfin, j'ai rarement vu un athlète qui part pour être élite et qui va terminer 500e sur une course, quoi. Je m'en cite pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup en tête, hein.
Justement, comment tu gères ce stress, cette pression du résultat, en sachant que se focaliser sur le résultat uniquement, c'est pas une bonne solution? Comment tu vas étaler ta course pour oublier que, bah, par exemple, au départ d'un UTMB, il te reste 170 km? Comment tu découpes ta course? Déjà, est-ce que tu découpes ta course? Et si oui, comment tu découpes ta course pour oublier le résultat final?
Oui, oublier le résultat final, on peut pas complètement l'oublier, mais oui, évidemment, ça j'en ai parlé un petit peu avec Eric, ce découpage de course, je le fais, et puis à plusieurs échelles en fait, où y a déjà des découpages par rapport au point de ravitaillement, ou en fonction de la course, en fait, voilà, on arrive assez facilement à découper la course en 3-4 morceaux, qui rendent la course, enfin l'objectif moins insurmontable, et après à l'intérieur, il y a encore pas mal de découpages, jusqu'à des découpages à relativement court terme, comme je mentionnais, des fois c'est juste sur une montée courir jusqu'à un caillou ou un arbre, donc ça devient un découpage vraiment court terme. Donc j'ai plusieurs niveaux de découpage, oui, à l'intérieur de la course, et on peut pas se dire que ça sert à rendre plus accessible en fait l'objectif, mais on peut pas non plus quand même complètement oublier l'objectif final qui est la ligne d'arrivée quand même. Parce que voilà, si on a découpé la course en 4 morceaux, donc il y a 40 km, si on donne tout sur les 40 premiers kilomètres, il y a peu de chances que ça se passe bien sur les, les 3 sections suivantes. Donc on est obligé de garder quand même ça en tête, quoi. On ne peut pas complètement la cacher, quoi. Enfin, là...
C'est quoi tes différents niveaux de découpage? Ouais. Tes petites astuces de découpage par rapport au ravito, par exemple?
Souvent, c'est des passes. Les principaux découpages sont déjà les zones de ravitaillement où on va avoir l'assistance. Donc, ils ne sont pas tellement nombreux sur l'UTMB, mais voilà, ça permet de découper déjà la course dans ces parties-là. On sait qu'on va avoir ce qu'on prend d'habitude. On va avoir aussi un petit peu nos assistants. Donc, là, un petit peu d'informations et de course et de partage avec ceux qui nous font l'assistance. Donc ça c'est la première étape. Après à l'intérieur ça peut être justement les par rapport au profil à l'intérieur de ces sections, les profils montée descente, et puis sur l'UTMB je connais assez bien la course, donc il y a des sections aussi où je me fixe des petits objectifs en fait. En plus du découpage, c'est aussi un objectif à plus court terme. Cette année j'ai été assez content au niveau de entre Chapieux et puis Balle du Col de la Seigne de pouvoir courir toute la partie plate, elle est pas plate justement, la partie bitume en fait sur la route où jusqu'à maintenant j'avais alterné marche-course et là j'ai pu la courir tout le long, donc c'est un objectif qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais j'étais content de pouvoir atteindre sur celui-là, je pense pas l'avoir payé après. Donc c'est ce genre de découpage et des objectifs à plus court terme, quoi.
Ça, c'est pour une course que tu connais parfaitement. Dans le cas d'une épreuve où tu vas participer pour la première fois, est-ce que c'est plus difficile ou plus facile d'arriver frais et un petit peu néophyte sur une épreuve que tu ne connais pas, ou au contraire d'être sur une épreuve que tu connais par cœur? Comment tu fais sur une épreuve que tu ne connais pas? Alors, tu n'as pas ces repères géographiques, géologiques, etc.
Alors c'est assez rare maintenant en fait où sur une grande course j'arrive et je connais 0% du parcours. La plus récente là c'était en Thaïlande où je suis pas arrivé très longtemps avant la course sur place, donc j'ai pas repéré beaucoup. Mais par rapport en fait déjà au profil, je peux établir. Moi, des sections, en fait, ou des découpages. Maintenant, connaître le parcours, ça a ses avantages et ses inconvénients, quoi. bah, ça a les avantages pour pouvoir gérer ton allure. Et puis, on sait à quoi s'attendre. On sait, en fait, ce qui va arriver derrière. Et des fois, quand on n'est pas bien, bah, on dirait que c'est mieux de ne pas savoir. Et puis, de faire de toute façon le mieux qu'on peut sur le moment et sans vraiment penser aux difficultés qui vont venir sur la... Sur la... Quand on découvre une course, c'est un petit peu ça. C'est... bah, des fois on est dans le dur et en fait au final c'est encore plus dur après, mais bon, heureusement on le savait pas, donc ouais, c'est à double tranchant en fait, de bien connaître le parcours ou de le découvrir. Et puis après on a quand même quand on connaît pas le parcours, cette découverte quand même, même si on passe pas notre temps à regarder autour de nous, voilà, c'est quand même une découverte. Et certaines fois, ben, on a des bonnes surprises et des choses qui peuvent on va dire nous changer un petit peu les idées et nous sortir un petit peu de la course, quoi. Enfin, la course, quand j'entends en fait des pensées qu'on a focalisées sur la course, quoi.
Ça fait partie de l'expérience de course, de regarder le paysage, de profiter de l'environnement. Ça t'aide ? Est-ce que ça t'aide ?
Ça m'aide.
En Thaïlande, par exemple, un paysage que peut-être dont tu n'as pas l'habitude.
En Thaïlande, ça m'a pas aidé parce que Thaïlande, c'est un parcours qui est assez varié, mais on a très peu de points de vue parce que c'était beaucoup en jungle. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à regarder au final. Donc, mais sinon, ça aide. Je me souviens surtout en fait des premières fois, les premières fois où je suis allé à la Diag et que je suis arrivé dans les cirques. Voilà, c'est des trucs quand même qui sont, où tu t'en souviens longtemps quand même. Donc ça peut aider, après je te dis, je passe pas quand même mon temps à regarder la course, je suis quand même assez concentré en principe sur la course, sur les fesses de ceux qui sont devant ou les talons, c'est quand même pas l'objectif ou mon occupation principale, de regarder autour. Mais il n'empêche que tu as quand même des souvenirs de course en fait, avec des paysages qui sont assez dingues. Enfin, je me souviens parfois de coucher de soleil quand on est à l'UTMB en fait, sur le Mont Blanc qui était chouette, quoi. Ou le lever de l'autre côté quand on est en Italie, qui sont sympas aussi. Mais voilà, ça, on passe pas quand même. Enfin, en tout cas pour moi, je passe pas mon temps à regarder les beaux paysages, mais voilà, ça fait des fois des petites surprises qui font qu'on passe des bons moments, quoi.
Donc, sans être totalement étanche, tu es quand même bien concentré. Et tu te concentres sur quoi ? À part les fesses du mec qui est devant toi ou ses talons ?
Ouais, c'est une grande question parce que c'est vrai que on me demande souvent à quoi on pense pendant la course. Et en entraînement, en fait, j'ai beaucoup plus de facilité à me sortir de la course et à penser d'autres choses, de la vie quotidienne. En course, je reste plutôt quand même focalisé sur la course. Et c'est vrai que je sais pas trop quoi répondre quand on me pose cette question parce que je sais que je pense pas trop quand même à la vie quotidienne à ce moment-là et plus sur les courses, mais je sais pas trop de quoi te dire à quoi je pense vraiment.
Tu penses à ton allure, à ta foulée, à ta technique, au caillou qui est devant toi. À ton prochain ravito, à continuer à t'hydrater, t'écoutes de la musique ?
Non, alors j'ai pas de musique, j'aime pas ça. J'aime bien avoir les bruits qui m'entourent, alors même si maintenant il y a des casques qui permettent de faire les deux, mais non, pas de musique. Donc oui, concentré sur les prochains ravito, sur ça, sur mon allure, est-ce que je peux faire mieux ou pas ? Enfin, est-ce que je vais me griller ? Enfin, j'ai pas. Ouais, j'arrive pas trop à expliquer quoi je pense. Après, c'est plutôt aussi se fixer. Voilà, quand je suis dans une montée, c'est se fixer un objectif, puisqu'il y a un coureur devant ou il y en a un derrière. Voilà, ça peut être juste ça en fait. Mais ouais, j'arrive pas trop à répondre à cette question.
Donc, s'il y a un mec devant toi, t'essayes de le rattraper. Ou s'il y a un mec derrière toi, t'essayes qu'il ne te remonte pas. Et t'es à l'écoute de tes sensations, je suppose.
Oui, plus. Ouais.
Alors, pour vous, les watts,
moi je travaille pas.
Tu essayes absolument
pas avec un capteur de puissance, rien, donc c'est sensation. J'ai un cardio au poignet en fait sur comme pratiquement toutes les montres maintenant quoi. Donc Coros commence à ces capteurs là. Maintenant je m'en sers pas en fait pour fixer ça mon allure quoi. Et je préfère être à la sensation. Et puis oui, s'il y a quelqu'un devant, surtout la nuit en fait, c'est un petit peu les objectifs quoi. Surtout que comme je disais, je suis un petit peu sur une gestion de course où je suis assez conservateur, donc je suis souvent assez loin en fait sur les départs de course. Et donc la nuit, on voit des frontales et ouais, souvent c'est un objectif dans une montée d'avoir rattrapé une frontale ou deux, ça dépend ce qu'on voit en fait au loin quoi. Donc c'est des objectifs et motivations aussi à court terme. Ouais.
Bah tiens, la nuit, parlons-en. Ça se passe comment pour toi la nuit? C'est plutôt parce que ça peut faire mal à certains, ça peut surprendre d'autres. Toi la nuit, ça se passe comment? Tu as un coup de mou dans la nuit? Est-ce que tu te sens mieux au lever du soleil? Ça se passe comment pour toi?
Alors déjà, je dors rarement la nuit en course. Non, ouais, donc on passe pas des bonnes nuits parce qu'on dort pas. Mais moi, je trouve ça, il y a pas vraiment de différence jour nuit. J'aime bien le lever du matin parce que c'est vrai que c'est un moment, bah, même si on n'a pas dormi, voilà, on a passé la nuit, on commence une nouvelle journée et ouais, c'est un changement dans la course. Maintenant, j'ai pas de différence. Enfin, on a quand même du matériel qui est assez performant pour nous éclairer correctement. Le problème qu'on peut avoir la nuit, puis il y a eu sur l'UTMB, c'est l'année dernière, je crois, pas cette année, où c'est avec le brouillard en fait. Donc, si on a du brouillard plus la nuit, du coup, avec la frontale, faut gérer un petit peu l'éclairage pour pas avoir un rideau blanc. Donc, ouais, c'est juste ça. Mais ouais. Sinon. Les éclairages, voilà, moi j'utilise peu d'éclairage en montée parce qu'on va quand même pas bien vite sur une montée. Par contre, j'essaye de mettre ma lampe pratiquement au maximum ou au maximum sur la descente pour avoir un bon éclairage. J'ai pas de problème là-dessus et je pars senti de coup de mou, même avec l'expérience qu'on a eue avec Céline sur la Diag avec 39 heures. Voilà, j'ai pas ressenti de fatigue ou d'envie de dormir. On avait essayé il y a l'année dernière, donc en 2022, dormir un coup sur la Diag avec Céline. Et moi, j'y arrive pas, je sais pas. Peut-être c'est quelque chose à entraîner, ça, des micro-siestes. Faudra voir. Je sais pas comment François va le gérer sur le Thor, mais mais voilà. Sur disons que pour l'instant, le maximum de courses que j'ai, c'est 39 heures. Et j'ai pas eu d'envie de dormir. Sur ces courses-là. Donc, sur une course de 24 heures, je ne ressens pas de coup de mou non plus, quoi, lié au sommeil.
Tiens, bah allez, puisque tu me parles de ta femme et du Grand Raid de la Réunion, donc tu l'as fait là dernièrement avec ta femme. Et une question qui revient souvent pour nous et plus pour les suiveurs, c'est comment on encourage quelqu'un, notamment dans les moments difficiles. Et toi, comment encourage-t-on sa femme pendant un trail, pendant un ultra à vélo, par exemple, sans risquer un wamashigiri coup de pied circulaire?
Bon, déjà, moi, je restais...
Comment on encourage un proche?
Déjà, je restais toujours derrière. Après, elle avait déjà suffisamment de motivation, aussi un échec derrière elle, hein, pour aller au bout. Et j'ai pas eu besoin de beaucoup l'encourager, sauf sur la dernière partie où vraiment, ça a quand même beaucoup baissé de rythme. Et là, la motivation était plus aussi par rapport à son classement, parce que du coup, elle réussissait un classement dans sa catégorie, en fait. Donc voilà, c'était un petit peu motivation par rapport à un podium qui était possible en catégorie. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu ce podium, ben, on aurait peut-être trouvé autre chose. Mais ça peut être juste un temps, en fait. Voilà, on s'était fixé d'être... Donc elle voulait pas fixer de temps. Moi je lui disais qu'elle pouvait faire moins de 40 heures, je lui disais même voilà, si tout va bien je pense que tu peux être en 36 heures, c'était très objectif, très optimiste. Voilà, et là quand on approchait en fait dire d'être en moins de 40 heures, c'était encore un objectif. Voilà, et si ça avait été 41 heures, j'aurais motivé pour être en moins de 41 heures, mais voilà, peu importe le temps, voilà, par rapport à ça, c'était de fixer un temps sur l'arrivée. Et puis surtout, c'était d'arriver ensemble, donc et pas trop blessé ou pas trop mal en point, quoi.
Donc, vous êtes quand même tous les deux bien sur une logique de compétition, parce qu'il y a vous vous fixez un temps. C'est pas juste on fait la diag et on essaye de finir. Il y a vraiment un objectif de temps, de place, un objectif clairement défini qui est pas juste. Eh ben, on va faire un tour à la Réunion et puis on essaye de finir. Ou l'objectif, c'est de finir. Il y a vraiment un objectif clairement défini de place et de temps. Ça aide?
Alors, c'est pour moi, c'était ça. Pour Céline, elle voulait pas se fixer ça, elle voulait pas se fixer d'objectif. L'objectif, c'était de terminer ensemble. Et puis, ben, moi, je suis un petit peu plus compétition. Donc, donc c'était quand même de lui fixer un temps. Et je sais, par rapport aux entraînements que j'ai fait pas mal d'entraînements avec elle. Voilà ce qu'elle pouvait faire. Là où j'avais pas trop l'expérience, c'est ben voilà, passer 100 km, comment ça allait se passer. Et, je m'attendais à ce que ça baisse quand même pas mal, et c'est ça qui est difficile à estimer, quoi. On fait pas des entraînements de 150 km, ça existe pas. Donc ouais, c'est plus moi qui ai fixé, qui lui ai fixé un temps, et moins de 40 heures, j'étais assez optimiste qu'on pouvait le faire, et ouais, j'ai dit. Potentiellement, ça peut être voilà, entre 36 et 40. 36, c'était, il faudrait vraiment que ce soit la course parfaite et puis que, ouais, qu'il y ait un peu moins de baisse sur la fin de course, quoi.
C'est quoi une course parfaite?
Bah, course parfaite, c'est il n'y a pas de haut, on a tout. Enfin, pour moi, c'est il n'y a pas de haut et bas, quoi. C'est qu'on est vraiment, enfin. Ou alors on reste toujours dans l'eau, si tu veux, mais qu'on n'a pas vraiment de coup où on se dit, bah là, je sais que là, j'aurais pu courir plus vite, j'aurais pu faire mieux. Bah, au lieu de me poser 10 minutes, là, j'aurais pu optimiser les ravitaillements. Donc, je pense que là, il y a des optimisations avec la course de Céline sur la Diag. Il y a pas mal à optimiser. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que tout le monde fait à plus haut niveau, en fait. Sur UTMB, on a optimisé un petit peu de partout. Enfin, on commence à parler de plus en plus du temps de ravitaillement. Et voilà, c'est cette optimisation-là et de se dire où est-ce que, quand on a terminé la course, en fait, c'est où est-ce que j'aurais pu, en fait, aller un peu plus vite ou où est-ce que j'ai perdu du temps. Est-ce qu'à un moment, ouais, je me suis un petit peu enfermé dans un rythme qui était confortable, mais qui m'a fait peut-être perdre du temps. C'est un petit peu le risque qu'on a quand on court. Je te mentionnais tout à l'heure, j'ai couru en fait en 2021 à l'UTMB une bonne partie de la nuit avec des collègues. Et c'est un petit peu dans ces cas de figure-là où on peut s'enfermer un peu dans un rythme. Alors, soit qui est trop élevé, on va le payer après, soit qui est trop confortable, et là, on perd du temps. Voilà, course parfaite, ouais, c'est quand on a réussi à tout optimiser pour moi et pas eu optimiser aussi toute son hydratation et son alimentation et pas avoir de coup de moins bien, ni mental ni physique, quoi. Course parfaite, c'est.
On parle souvent de. Vas-y, fini.
Non, non, course parfaite, c'est l'idéal. Pour moi, c'est ça, c'est l'idéal, c'est d'avoir tout optimisé et de se dire, je peux pas faire mieux. Alors, c'est pas forcément, en fait, la même finalité, parce qu'il y aura quand même toujours des différences physiques entre les coureurs ou de préparation. Mais voilà, une course parfaite entre un Jim ou un Kylian et moi, ça sera pas le même résultat ou même temps de course. Mais voilà, se dire que on a fait le maximum sur la course en question, quoi. Je sais pas si c'est bien clair, mais
on parle. C'est parfaitement clair, justement, et c'est la transition idéale. On parle souvent de ta longévité, et est-ce que cette quête finalement de petites optimisations, c'est ce qui permet d'entretenir la motivation d'une année à une autre plutôt que d'aller chercher une place ou un temps, même si tu m'as dit que c'est très important pour toi. Est-ce que d'aller optimiser un petit truc, d'essayer d'aller gratter sur le temps de ravito, sur l'allure, sur des passages que tu connais parfaitement où tu sais que là tu peux t'autoriser à passer à une certaine allure. Est-ce que c'est aussi de cette manière-là qu'on va entretenir la motivation?
Oui, tout à fait. Là sur l'UTMB, quand j'ai fini en 2021, j'ai mis 21h30, je crois. Mais tu dis, je pense pas que je peux vraiment optimiser plus. Enfin, je peux pas aller bien plus vite. Alors cette année, c'était un parcours, une fin qui était un peu différente. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait 30 minutes de différence. Je vais 30 minutes plus vite cette année. Je ne pense pas qu'il y ait 30 minutes de différence entre les deux parcours. Oui, il y a des choses où on se dit qu'on peut encore travailler. Et une autre motivation aussi, bah, si ce n'est d'améliorer en fait le temps, par exemple sur un UTMB où le parcours est identique, parce que c'est pas toujours le cas, c'est de maintenir en fait. C'est aussi une motivation de maintenir ce temps-là, quoi. Et pour l'instant, sur les courses après 2016, en fait, j'ai toujours amélioré mon temps, quoi. L'objectif, c'est de partir et d'avoir le même temps de course que 2016. Voilà, j'ai toujours fait un petit peu mieux, même si la place est de moins en moins bonne, mais bon.
Ça, c'est normal, c'est l'évolution du sport qui veut ça.
Ouais, ouais. Non, et puis après, une autre motivation, c'est aussi de courir avec les jeunes, avec des coureurs. Qui sont là, où t'essayes de rester aussi encore devant ces jeunes-là, même si à un moment ils prendront forcément le pas dessus, mais c'est un petit peu le jeu aussi, ancien et nouveau, quoi, on va dire. Même si maintenant il y a des anciens des personnes qui ont commencé très jeunes et qui sont encore là, je pense que ça, les anciens sur l'ultra sont quand même encore là, et je pense que Kylian, François sont catalogués maintenant dans les anciens quand même.
Et toi, ta quête aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu peux encore améliorer ?
Je pense que dans les préparations, j'ai encore de la marge. Il y a des choses que j'aimerais travailler. Pas la nutrition, j'ai pas envie de me mettre la contrainte en fait, sur trop de contraintes au niveau nutritif, même si je fais attention en course à mon plan de nutrition, enfin mon plan, oui, à ma nutrition de course, mais j'ai pas mal d'excès dans mon alimentation au quotidien, et ça, j'ai pas tellement envie de travailler dessus pour l'instant, parce que j'ai pas envie d'avoir cette contrainte, et de garder un petit peu ce plaisir de manger des choses qui sont bonnes, mais pas forcément bonnes à la santé. Maintenant, il y a un truc que j'ai commencé un petit peu l'année dernière par la force des choses, c'est l'entraînement en altitude, avec passer du temps aux US sur les hauts plateaux, faire un stage avec Oka à Valto. Donc c'est un aspect, je me dis, qui m'intéresse en fait de travailler, voir si il y a un intérêt après dans l'ultra. Et c'est aussi quelque chose qui est, je trouve, pour moi moins contraignant, si la contrainte, c'est plus au niveau de la localisation. Il faut trouver un endroit qui est assez lourd. C'est moins facile qu'aux États-Unis, en France. Et du coup, il y a de la contrainte là, par rapport au travail et à la famille, quoi. Voilà.
Justement, en parlant de préparation, pardon, tu as un entraîneur, mais est-ce que tu appliques sagement les consignes, ou est-ce que tu es plutôt du genre à expérimenter par toi-même, même si tu dois te planter? En gros, est-ce que tu es plutôt anticonformiste ou plutôt bon élève?
Je suis globalement le plan d'entraînement, surtout en fait pour tout ce qui est quand on travaillait en fait la vitesse et tout ça, je suis assez scrupuleusement le plan, donc assez bon élève. Sur les prépas en fait, quand on est venu sur l'UTMB et tout ça, je suis un petit peu sorti du plan de Philippe. Pour moi en fait, je voulais essayer justement, c'était un petit peu l'expérimentation aussi, hein, l'année dernière, il y a 2 ans sur la TDS, j'avais fait une semaine de gros volume. Je voulais voir ce que ça donnait. Donc gros volume, c'était une semaine où j'avais fait un peu plus de 300 km et plus de 20 000 de dénivelé.
Ça fait combien d'heures, ça?
Oh, combien d'heures, je sais pas. J'ai fait dans la même semaine la Reco UTMB avec Arthur, et après la Reco TDS avec ma femme. Donc voilà, sur des rythmes différents, mais combien d'heures, je ne sais pas te dire, un certain nombre d'heures. Et cette année, donc un petit peu différent, c'est que j'ai fait 3 semaines de volume, un petit peu moins quand même, mais 3 semaines sur à plus de 200 km et vers 15 000 de dénivelé. Donc c'est un petit peu ça, les expérimentations, voir un petit peu. Je pense que Déjà, en fait, au niveau scientifique, on n'a pas forcément toutes les explications sur l'ultra. Et en plus, je pense qu'on réagit différemment. Je sais pas ce qui bip, mais on réagit chacun différemment. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une petite part d'expérimentation à faire. Chacun doit le faire de son côté. Donc, voilà, il m'a donné les grandes lignes. Je les suis moins, en fait, quand j'approche, en fait, de l'ultra. Même si j'essaye de l'ultra, en fait, quand je parlais de prépa UTMB, là, on verra, en fait, comment il me planifie aussi pour la préparation à Rock. Mais voilà, j'ai aussi ma petite idée de comment je veux me préparer et puis du volume que j'ai envie de mettre. Et pour lui, des fois, c'est un petit peu un risque, en fait, ces volumes. Et des fois, ça lui fait un petit peu peur quand j'ai fait ces 3 semaines de volume. Et voilà, c'était pas vraiment ce qu'il m'avait mis dans les plans. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu mauvais élève. Mais par exemple, pour la préparation, en ce moment, voilà, il y a un petit peu d'entretien, on va dire, avec un peu de séance qualité fractionnée. Je suis ce qui me met. D'ailleurs, j'ai un 12 fois 1 minute à faire aujourd'hui. Oh. Avec de la glace.
Ça va être sympa, dis donc. Si je pouvais, je viendrais avec toi. Ça a l'air tellement alléchant que vraiment, je regrette de ne pas pouvoir la faire, celle-là. Tac, tac, tac. Ça te sert à quoi, justement, ce gros volume?
Bah, justement,
ton entraîneur, donc Philippe, a priori, est un petit peu perplexe. Mais toi, qu'est-ce qui te pousse à vouloir te mettre ce gros volume?
Je te dis, donc, c'est déjà l'expérimentation, savoir comment je le supporte. Moi, je pense que ça m'a servi quand même, justement. Je disais que j'étais déçu au début du TMB, de la place, d'être aussi loin dans le classement. Par contre, je pense que ces semaines de volume m'ont permis de maintenir, justement, cette allure qui n'était pas très rapide, mais la tenir, en fait, tout le long. Et c'est la course où j'ai. On a aussi, en fait, ces paramètres qui sont disponibles sur la montre. Par exemple, Coros nous donne l'allure de course et ça nous donne un graphique, en fait, par rapport à la pente, par rapport à différents paramètres, en fait, savoir si on baisse ou pas, quoi. Et c'est une de mes courbes, en fait, où je suis le plus stable. Il y a une toute fin, il y a une petite baisse, en fait, d'allure d'effort. Mais c'est une des courbes où je suis le plus stable. Et je pense, alors, c'est vrai que j'en ai pas vraiment débriefé avec Philippe, mais pour moi, c'est un peu lié à ces 3 semaines de volume. Et il y a un autre effet aussi, c'est quand on a passé 3 semaines comme ça à être quand même souvent dehors, je sais pas, j'ai pratiquement pas vu passer les 10 premières heures de la course, en fait. Dire c'est pratiquement une sortie standard. Donc, enfin, plus on passe de temps, c'est comme là, je suis en train de faire aussi un peu de volume en ski de rando. J'ai fait des sorties, enfin, avec Arthur, on a fait des sorties jusqu'à 14 heures dans la journée. Bah, quand on prend, on repasse, on fait une sortie de 2-3 heures, on a l'impression que on a à peine échauffé. Donc c'est aussi ça, c'est aussi la vision qu'on a, enfin, je sais pas, mentalement, ça déverrouille quelque chose, je trouve, de passer de ces longues heures là. Et puis au final, quand on a passé 10 heures, on dit bon, j'ai l'impression de juste venir de commencer la course, quoi. Donc voilà.
Ouais, ça donne un petit peu de la perspective. Nous, on dit à vélo, on dit banaliser un petit peu les kilomètres quand on va faire un truc quelconque. On va essayer de rendre une distance de 200, 250, 300 assez banale, où on se dit écoute, on va faire un 200, ok, pas de problème, comme si c'était, ça reste 200 kilomètres, mais c'est pas non plus le bout du monde. C'est pas comme si on devait aller faire un 400, par exemple, justement. Après, il y a 200 et 200 selon le terrain. Mais cette idée de banaliser les kilomètres et la durée, c'est important, ouais, comme tu l'as dit. C'est ça aide énormément, parce qu'on se met pas de, on se dit pas putain, je pars pour 200, 250. Ouais, pas de problème, on part pour 200, 250, mais on l'a déjà fait. C'est tellement on sait le faire, même si on n'a pas les jambes totalement. Globalement, on sait le faire. Et c'est pas si difficile que ça, globalement.
Voilà, c'est ce genre d'expérimentation. Et puis je pense qu'au niveau entraînement physique, ça a servi, et aussi ça sert aussi pour moi au niveau mental, quoi.
Ouais. Est-ce que tu te souviens d'une course où tu as été obligé d'aller beaucoup plus loin que d'habitude mentalement, où tu es allé racler les fonds de tiroir? où tu t'es raccroché vraiment du bout des doigts à ce que tu pouvais. Est-ce que tu as un souvenir de ça?
Alors,
un exemple à raconter.
Il y a eu pas mal de courses où ça a été dur de terminer, mais assez récemment, c'est sur la Western cette année, où j'ai un petit pépin physique, petite contracture en fait sur un adducteur et je me pose plein de questions sur terminer et je sais que j'avais préparé avant certaines choses pour aller au bout et ça, ce qui m'a vraiment sauvé là, c'est d'avoir comme objectif de faire les 10 derniers kilomètres avec ma fille qui pouvait faire pacer, donc c'est la première fois que j'allais courir avec ma fille en course. Donc, j'ai été chercher ce levier-là, mais plus profond que ça, non, là, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, quoi. Mais non, je sais pas.
Alors, je reviens un instant parce que j'ai noté une question et ça m'a fait penser à l'instant sur la notion de gros volume. Entre tes 3 semaines de gros volume et le départ de l'UTMB, donc la fin de ton bloc de 3 semaines et le départ de l'UTMB, il s'est passé combien de temps? Tu as laissé combien de temps de récup?
Il devait y avoir à peu près 3 semaines aussi, je crois, 2 semaines et demie. Donc, c'est pas coupé complètement. Hein. Il devait y avoir presque 3 semaines, je crois. Il faudrait que je revoie exactement. Ouais. Donc c'est une descente plutôt progressive aussi, quoi. C'est pas coupé.
Oui, bien sûr.
Faudrait que j'ai.
Durant ces 3 semaines, tu fais quoi? Tu continues à courir, bien entendu, mais pour t'occuper l'esprit et penser à autre chose, pour retrouver de la fraîcheur, parce que tu auras passé 3 semaines à courir beaucoup. Il peut éventuellement y avoir un petit effet de saturation. Comment, dans ces 3 semaines-là, tu retrouves de la fraîcheur pour être prêt le jour de la course?
Déjà, j'ai un travail, donc
j'avais retravaillé déjà, ça occupe
quelques jours, même si j'ai pris pas mal de vacances l'année prochaine et c'est ce que l'année dernière et puis c'est ce que je prévois aussi l'année prochaine. Donc, ça permet de penser aussi à autre chose, mais moi, j'ai pas de problème pour m'occuper à autre chose que la course. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai plutôt pas mal de choses qui sont en attente d'avoir du temps en dehors de la course et du travail. Donc, j'ai de quoi m'occuper. Là. Ma fille est en train de rénover une maison, donc j'ai de quoi faire aussi dans ce domaine-là. Donc,
de ce côté-là, ouais.
Change les idées.
Tout à l'heure, tu as parlé brièvement de pépins physiques avec une contracture. Nous, à vélo, on peut être souvent en détresse sur une casse matérielle. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais abordé, auquel j'ai jamais beaucoup pensé, mais tu vas m'aider à élucider ce mystère. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être vraiment, en tout cas en détresse, ou être à la limite de l'abandon sur une casse matérielle? Qu'est-ce qu'on peut casser en trail qui va compromettre sérieusement la poursuite de la course? Nous, on peut casser une chaîne, un dérailleur, une patte de dérailleur, plein de trucs. Mais vous, en trail, qu'est-ce que vous pouvez casser qui serait vraiment gênant?
Non, bon, après, il n'y a pas
grand-chose, j'ai l'impression.
Pas grand-chose. On peut casser un bâton. Après, on a possibilité de changer, en fait, sur les aires d'assistance. Donc, on peut renouveler assez vite. Maintenant, qu'est-ce que tu peux casser? Un lacet, mais c'est hyper rare, quoi. Et puis, tu peux toujours faire un nœud, quoi.
Et puis, ça se répare.
Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux casser? Il n'y a pas grand-chose. Des fois, il y a des choses, en fait, matérielles qui sont un peu gênantes ou ça m'est arrivé, en fait, de casser un petit élastique sur une flasque et puis après qu'elle sort plus fréquemment. Des choses comme ça. Maintenant, casser vraiment le sac, par exemple, on n'a pas le droit de le changer sur l'UTMB, il est marqué, on a la puce, on n'a pas le droit de changer de sac. Donc, si tu avais une bretelle qui se déchire, mais bon, c'est quand même, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pire? C'est une semelle qui se décolle ou un truc comme ça, mais Ouais. Donc, il y a beaucoup moins de contraintes. J'ai fait un peu de raid multisport. Et c'est vrai qu'on a eu des problèmes de dérailleur aussi, avec du sable dedans. Enfin, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de contraintes en vélo. Bon, crevaison, sans parler de crevaison, mais aussi, ouais, casser rayon, etc. Donc, il y a moins de contraintes comme ça, quand même, avec la course à pied. Il y en a un peu plus dans le ski alpe, où je fais du ski alpinisme, où là tu peux casser chaussures, fixation, ski, ça casse le matériel léger, ça casse un peu plus fréquemment quand même.
Ça t'intéresse pas de venir nous voir en ultra à vélo?
Ouais, ça fait, j'en fais vraiment pas assez. Un vélo, l'année dernière, je regardais un peu mes stats sur l'année dernière, j'ai même pas 1000 km de vélo. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps aussi, le vélo. Je pense qu'il faut passer. C'est un peu comme tous les sports, hein, parce qu'on se dit c'est ingrat comme sport. Quand t'arrêtes d'en faire, tu mets assez longtemps à revenir. Je pense que c'est un peu comme tous les sports d'endurance, à mon avis. Pour l'instant, ouais, quand tu passes déjà. Ouais, j'ai déjà fait 200 km quoi, en vélo, mais pas bien plus long. Je pense que je passe pas assez de temps pour pas avoir mal aux fesses pendant un moment. Donc pour l'instant, c'est cette contrainte-là. Après, je trouve ça pas mal. En fait, il y a beaucoup de coureurs à pied qui font ces entraînements vélo croisés pour faire du volume et que ça soit quand même moins traumatisant que la course à pied pour les articulations. Ouais, j'en ferai peut-être un peu plus quand j'aurai plus de temps. Maintenant, l'ultra vélo, je sais pas. Non, mais enfin, l'ultra, quand vraiment tu passes après les nuits à vélo, j'ai eu quelques histoires de collègues qui faisaient du raid multisport, qui sont endormis dans des cols en vélo. Ouais, c'est pas très ça fait pas très envie, ça. Donc ouais, quand on commence vraiment à être long, enfin, quand tu parles ultra, je ne parle pas de 300 km, tu me parles d'un Est Cross France ou un truc comme ça.
300 km, c'est la première journée.
Voilà, c'est ça. Donc ouais, non, c'est, je pense qu'il y a, que t'as, même si t'as un risque, en fait, vraiment, si t'es épuisé de dormir, de tomber en trail, je pense qu'il est plus important en vélo. Et ouais, s'endormir sur une descente de col, ça fait pas rêver quand même. Hein. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé.
Non, je me suis pas endormi, mais j'ai plein d'anecdotes d'amis qui se sont réveillés en tapant un parapet, de chutes. Ouais. Bon, après, il y a plein de trucs, mais oui, la nuit, c'est qu'elle, bah, même la journée, hein, et le meilleur moment, tu sais, on en rigole des fois, on en parle, le meilleur, parce qu'on se dit, quand on voit ça de l'extérieur, ouais, on dort une heure et demie dehors par terre, ça fait, bah, comme tu dis, ça fait pas très très envie, mais en fait, c'est les meilleurs moments quasiment de la course. Parce que c'est comme quand t'es ivre mort bourré, que tu t'endors recroquevillé dans ta voiture, et qu'en réalité, tu dors hyper bien. Ouais. Et ben là, c'est pareil, quand tu t'écroules de fatigue dans un fossé entre deux cailloux, qu'est-ce qu'on dort bien dans ces moments-là. C'est vraiment, c'est quasiment les meilleurs souvenirs, quoi. Parce qu'on dort tellement bien, on est tellement fracassé que ça, c'est un sommeil magnifique, un merveilleux sommeil.
Ouais, bah, je pense qu'après, il y a des, voilà, moi, ce qui me fait peur sur l'ultra vélo, c'est ça, c'est vu que les descentes, on est quand même moins sollicité, en fait, physiquement, il y a plus de risques, en fait, de s'endormir que à pied. Je pense pas que tu tombes, en fait, vraiment de sommeil. Tu vas justement te poser, en fait, pour dormir à pied si t'as vraiment un gros coup de moins bien. En vélo, je pense que c'est ça le risque. C'est pour ça que je pense, ouais, pour l'instant, je suis pas prêt à venir sur l'ultra endurance à vélo. Maintenant, en trail, voilà, c'est pas complètement fermé non plus. Je vois que François va sur le Thor. J'ai pas fermé à faire un Thor. Maintenant, là, on passe vraiment dans une autre dimension, en fait, de course à pied. Et c'est vrai que j'ai vu quelques personnes qui ont fait le Thor, qui ont eu un peu de mal à s'en remettre ou ne sont jamais revenus après en trail. C'est pour ça que j'ai toujours un peu repoussé, voilà, cette expérience. Mais je pense que ouais, c'est une expérience que je ferai à un moment donné. Ouais.
Est-ce que c'est lié à ta gestion de course un petit peu conservatrice, justement, où tu te préserves et de cette pas peur, je vais pas le dire à ta place, mais de cette petite réticence à aller sur plusieurs jours consécutifs?
Oui, c'est ça. Enfin, non, c'est vraiment une peur après de plus revenir en fait et plus pouvoir. Ouais, il y a des collègues même chez Oka en fait qui avaient fait le tort et qui après ont jamais pu recourir en fait, ont terminé en fait leur carrière sur le tort. Voilà, moi j'ai de l'appréhension par rapport à ça et aussi en fait j'aime quand même bien dormir et cette gestion du sommeil pour l'instant je me sens pas encore, je sais pas comment la gérer quoi. Donc c'est quelque chose qui est à apprendre et comme je le disais j'ai essayé de dormir 5 minutes il y a 2 ans sur la Diag avec Céline et je sais pas comment ceux qui font les micro-siestes arrivent à gérer ça mais c'était pas possible et si après tu dors 1h30 enfin je vois après 1h30 après un ultra enfin j'arrive pas à marcher 2 mètres, faut le temps de se remettre en route donc toute cette gestion en fait du sommeil ouais ça sera un nouveau défi, un nouveau challenge ouais mais voilà. Par rapport au risque de ne pas revenir en fait dans les courses standards, ouais, j'ai toujours repoussé un petit peu quoi. J'ai envie de terminer un petit peu de faire le tour de ces courses. Alors cette année, je vais sur la Hard Rock, qui est un des ultras que j'ai pas encore fait et que je voulais faire. Voilà. Et après, peut-être qu'il y aura un petit peu moins d'objectifs comme ça et qu'on ira plus sur ces courses plus longues ou à étapes, à voir.
Alors quand cet épisode-là sera en ligne. Je t'inciterai à scroller très très légèrement vers le haut dans ton application de podcast et écouter l'épisode que j'ai fait il y a un mois et demi avec Sébastien Réchon et on en parle longuement justement de cette gestion du sommeil parce que lui aussi vient du raid avec une gestion super serrée du sommeil et c'est hyper intéressant cet épisode avec Sébastien.
Ok.
Et pour terminer, est-ce que tu te souviens d'une course où, au contraire, tu étais totalement libéré ou est-ce que tu as eu des phases totalement libérées de ce qu'on appelle le flow ? Est-ce que tu as eu des moments où tu étais vraiment déconnecté ou, au contraire, ultra focus sur ce que tu faisais et tout se passait bien, quoi ? Tu pouvais exécuter tout ce que tu voulais et tout se passait bien.
Je me souviens d'une édition de la TDS, je ne sais plus quelle année ça c'était, mais voilà, où aux ouches en fait j'arrive par surprise enfin j'avais plus de 20 minutes au sommet du col en fait avec la personne qui était en troisième position et aux ouches j'arrive à 30 secondes de cette personne là donc c'était complètement une surprise en fait de reprendre autant de temps en descente et je me souviens entre les ouches et puis Cham ouais ça a été le moment où voilà, j'étais complètement ailleurs en fait et j'avais l'impression de faire une course en fait, une fin de course à fond. Enfin, bon, j'avais pris quand même pratiquement 10 minutes sur la personne que je venais de rattraper, du coup j'ai pu garder ma troisième place. Et cette partie-là en fait, ouais, j'ai l'impression d'aller super vite et d'être complètement détaché en fait et de pas avoir fait 130 bornes avant quoi. Donc c'est un moment de course où pour mentionner celle-là où tu as l'impression que tu peux courir à pratiquement n'importe quelle vitesse enfin même si au final je pense que il se trouve que j'avais plus de batterie sur ma montre hein. J'étais pas encore chez Coros mais donc j'ai pas pu voir, ça se trouve le rythme était nul mais au niveau sensation était c'était plutôt sympa ouais.
Non mais en tout cas alors avant de te poser une question suivante je tiens à te féliciter parce que tu as réussi à placer plusieurs fois Coros et Oka donc vraiment bravo. Là, je tiens à te féliciter, c'est une performance, c'est magnifique. Est-ce que tu as réfléchi à cet état justement à ce moment-là ? Est-ce que tu as réfléchi à une manière de faire réapparaître cet état de plénitude ? Ou est-ce que, fidèle à toi-même, ça va, ça vient et on verra la prochaine fois ?
Non, alors là,
donc,
non.
Tu réfléchis, moi aussi, je peux vous montrer ma Coros aussi.
Ah, t'as pas l'édition.
Ah bah non.
Non, j'ai pas réfléchi comment retrouver ça, mais je pense que c'est c'était un moment en fait où je m'y attendais vraiment pas en fait à pouvoir atteindre cette place-là. Alors moi, c'était le podium en fait. Donc, c'était un moment d'euphorie, mais comment reproduire, je sais pas, c'est un fait de course comme ça, donc j'ai pas cherché forcément à reproduire ça, non. Enfin, si, j'aimerais bien, mais non, j'ai pas du tout cherché. Donc, on lui dit, je suis fidèle, on verra si ça se reproduit ou pas.
Voilà, t'es allé manger une tranche de jambon et voilà.
Voilà, c'est ça.
Bah là, je suis fier de moi parce que j'ai tenu une heure sans dire une grosse connerie. Et comme je sais que tu aimes énormément la charcuterie, tout le monde le sait maintenant. Ben bah voilà, je vais pouvoir te remercier et te souhaiter une bonne journée. Et c'était vraiment très très intéressant. Je te remercie infiniment. Et est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? Je te laisse conclure avec ce que tu veux.
Et ben, est-ce que je veux? Non, bah merci à toi. Et puis donc j'irai écouter ce podcast pour la gestion de la nuit, et puis on verra si ça me donne envie de faire un tour ou autre chose un petit peu plus long que ce que j'ai fait jusque-là. Quoi. Merci à toi, et puis c'est toujours enrichissant aussi de partager ça, donc à une prochaine.
Merci beaucoup.